Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi pour animer cette émission, Marie et Cécile, bonjour.
Bonjour.
On part donc à Gênes, en Italie, en 2018, pour le coup de cœur littéraire de Marie-Jo. Puis des couleurs pour exprimer la mer, c'est la galerie Art & Co qui expose Pascal Messina. Mais tout de suite, on commence avec vous Cécile, amour et divorce. On ne parle pas de couple aujourd'hui, mais de l'art du jardin, kiwi rouge, cosmos chocolat, carotte violette, mille espèces qui font saliver. Anne Dubouchron, botaniste amatrice et passionnée, nous révèle tous les secrets pour faire prospérer les plantes et soigner l'humain. Alors chers auditeurs, c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Anne Dubouchron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir quitté votre jardin pour venir dans les studios souterrains de Radio Campus. C'est beaucoup moins bucolique. Alors, vous êtes passionnée de jardin. Vous avez repris avec votre mari la Baronnière à Mauges-sur-Loire, une propriété familiale avec un parc à l'anglaise qui a été dessiné par l'horticulteur angevin André Leroy. Vous êtes aussi membre et vice-présidente de l'ASPEJA. L'ASPEJA, c'est l'Association des parcs et jardins privés en Anjou. Et ce dont on va beaucoup parler aujourd'hui, on parle jardin, mais on parle aussi potager, puisque vous avez repris un potager repris à l'abandon. Vous l'avez complètement redessiné avec une forme particulière. Alors, quel était votre objectif et vos priorités quand vous avez refait ce potager ?
Alors ma priorité d'abord, j'étais une citadine habitant Paris et Bruxelles, donc en arrivant à la Baronnière, il était évident que j'allais m'occuper de jardin. Pour s'occuper de jardin, il y avait un grand potager d'un hectare et demi et je voulais dessiner absolument un jardin en rond. J'avais vu ça en Irlande lors d'un voyage. Et surtout, je voulais au début faire la permaculture. Je me suis rendu compte que dans un monument historique, la permaculture n'était pas bien, c'était pas assez soigné.
Donc, alors oui, voilà. Pourquoi pas de la permaculture précisément ?
Alors la permaculture m'a beaucoup intéressée il y a 20 ans, 25 ans en Belgique, à l'époque où la France ne connaissait absolument pas la permaculture. Et on était 1000 personnes à des congrès à Namur. Je me souviens, c'était passionnant. J'étais décidée à faire que de la permaculture. Et finalement, j'ai beaucoup de bribes de permaculture à la Baronnière, dans le potager. C'est-à-dire que la qualité de la terre est très importante. Amour et divorce des plantes, très important aussi. Et on travaille comme ça avec l'entraide des plantes.
Mais alors, vous avez renoncé à la permaculture juste pour une question esthétique.
Oui, parce qu'en fait, il fallait que ça soit un jardin soigné. La permaculture, c'est très intéressant, c'est passionnant, mais c'est souvent pas tout à fait esthétique, comme je le voulais. Voilà.
D'accord, alors vous avez fait ce potager en rond. Est-ce qu'il y a une raison agricole ou est-ce que c'est purement esthétique ?
Vous avez raison, c'est purement esthétique.
Et donc vous travaillez en biodynamie et vous venez de nous parler d'amour et culture, d'amour et divorce des plantes. Alors, c'est quoi ? Il y a des plantes qui s'aiment, des plantes qui ne s'aiment pas ?
D'abord, on est entouré de 1000 plantes sauvages dans les fossés ou partout qui peuvent se soigner, s'entraider les unes et les autres. Ça, c'est très important. On a beaucoup de plantes qui aident les autres plantes à pousser, des plantes qui repoussent les insectes et on ne s'en sert pas assez. C'est très, très important de faire des décoctions, par exemple. Par exemple, quand je suis ouverte pour les rendez-vous au jardin ou les groupes, j'ai en général une dizaine de bassins et dedans je mets des brassées d'ortie, des brassées de consoude, des brassées de feuilles de rhubarbe, des brassées d'ail, de tanaisie, etc. Et tout ça, ça a un rôle précis dans les plantes pour aider, repousser, enfin tout dépend.
D'accord,
de ce
alors vous faites des décoctions, vous ne les plantez pas à côté des plantes qui ont besoin d'être protégées.
Ça aussi, vous avez raison, ça aussi. Par exemple, le persil et l'amande, ça divorce, ça ne s'aime pas.
Ça pousse pas non, si on les met à côté.
Mais non, ça peut pas coller. Les tomates, elles adorent être avec des tagettes, du basilic. Ça s'entraide. Vous voyez, c'est des plantes qui s'entraident au niveau racinaire, par exemple.
D'accord.
Les tagettes, c'est les petits œillets d'Inde. Ils dégagent une odeur dans la terre qui repousse certains insectes et qui aide la tomate. C'est très important.
Et si on met, par exemple, du basilic au pied de ces tomates, ça aide aussi.
Oui, ça aide aussi. Et quand on plante ces tomates sur un lit d'ortie haché, pas des orties grainées, évidemment, hein, mais sur des brassées d'ortie hachées, ça les aide à s'immuniser. C'est très important aussi. Elles s'immunisent beaucoup, comme il y a beaucoup de pluie. Elles sont beaucoup plus solides. Elles se battent. Voilà.
D'accord, donc vous utilisez ça. Vous nous avez parlé aussi, quand on a préparé cette émission, de la terre, de la qualité de la terre, puisque vous êtes en biodynamie. C'est quoi la qualité de la terre ?
Alors, la base d'un potager, moi c'est un potager fleuri surtout, parce que ce qui m'intéresse c'est d'avoir beaucoup de fleurs, beaucoup d'insectes, hein, énormément. Alors, une terre vivante, c'est la base de tout potager. On ne peut pas planter n'importe comment, comme ça, dans une terre qui n'est pas nourrie. Une terre vivante, c'est quoi ? C'est la protéger l'été, la protéger l'hiver.
La protéger l'été, c'est du paillage ?
La protéger l'été, c'est effectivement du BRF, bois ramal fragments, ou du paillage. Pas n'importe quel paillage, pas des paillages trop acides. C'est important de mettre des bons paillages, avec quelquefois des copeaux de bois plutôt blancs, mais pas forcément du pin. Le pin, c'est très acide, donc on
D'accord.
peut...
Voilà. L'herbe ?
Plutôt de la paille que du foin.
D'accord.
Voilà, pourtant en permaculture, beaucoup emploie le foin, mais je trouve qu'il y a beaucoup de graines dedans, donc c'est pas génial non plus.
Ouais.
Et puis surtout, protéger sa terre aussi l'hiver, c'est-à-dire que tous les massifs d'annuels, de tomates ou de fleurs annuelles, etc., moi je mets du carton dessus. Donc je mets un lit de feuilles, les feuilles c'est formidable au point de vue azote, ça donne beaucoup d'azote
ouais,
au
d'accord.
sol. Donc un lit de feuilles de 20 cm, un lit de fumier de 20 cm et du carton. Qu'on tient avec des pierres, du sable ou des bûches. Et ça, on laisse tout l'hiver travailler le sol. Et le sol, vous n'imaginez pas comme c'est magique quand on est à quatre pattes au mois de mars, quand on veut planter ces petits godets de cosmos, zinnia, tomates, etc. Vous n'imaginez pas comme c'est magique de voir le vivant de la terre qui a...
Il y a des petits vers de terre partout,
mais plus
des
que
petites
ça,
bestioles
plus que
partout.
Oui, beaucoup plus que ça, oui.
Vous la travaillez, vous la labourez, la terre ?
Non, alors la terre, on la gratte seulement, on enlève quelques liserons qui sont passés quand même à travers les cartons. Mais le test, c'est toujours de prendre un petit bambou avec l'index et d'appuyer doucement, comme dans un sous-bois, en fait. Et le bambou doit tout à fait descendre sans trop forcer. Alors que dans un chemin de terre, vous appuyez avec un bambou et l'index et c'est dur.
C'est
et
dur.
Rien ne poussera et c'est pas vivant.
C'est dur. Alors, beaucoup de fleurs, c'est, j'imagine, parce que vous aimez beaucoup l'esthétique,
oui.
Mais il y a aussi une utilité pour les plantes. Ou c'est juste pour l'esthétique ?
Les fleurs apportent beaucoup d'insectes. On a des, évidemment, dans le potager fleuri de la Baronnière, on a trois jardins. Un qui est verger, un hectare et demi. Donc un qui est verger, l'autre qui est sauvage, avec beaucoup de ruches, avec beaucoup de hérissons, avec des grandes herbes. On laisse tout sauvage, ça c'est exprès. On ne fauche pas.
Oui, c'est ça. J'allais
voilà.
dire, un
Bien
jardin
sûr.
Sauvage, c'est quoi ? Vous n'y allez jamais ?
Non, si.
En botte ?
Alors, si, oui, en botte, évidemment, mais il y a beaucoup d'herbes, beaucoup de marguerites, beaucoup de bleuets, beaucoup de merisiers, beaucoup de fleurs, enfin, beaucoup d'arbres, etc. Et des essais de vignes aussi. Voilà, enfin bon. Mais dans le jardin cultivé en rond, qui est propre avec des plantes tout aux abords, et un rythme, c'est vraiment un jardin organisé. Et là, ça, c'est soigné. Mais il y a énormément de fleurs, donc énormément d'insectes. Tout ça, ça va ensemble. C'est très, très important, les insectes.
En fait, c'est un équilibre. Vos trois, donc ce grand potager dont vous avez hérité, vous l'avez divisé en trois parties.
Oui.
Et chaque partie a une utilité pour l'autre.
Exactement.
Si j'ai bien compris.
Ça s'entraide, tout à fait. En fait, le potager lui-même, il est divisé lui-même en quatre parties. C'est-à-dire qu'il a un verger en amphithéâtre, en cordon, des cordons de verger sur un quart. L'autre quart, c'est que des légumes, mais que des légumes évidemment un peu oubliés ou amusants en couleur. Voilà. Et la troisième partie, c'est que des fleurs annuelles et vivaces. La quatrième partie, ce sont que les cucurbitacées, les tomates et un mur où il y a ce que j'appelle les curieuses.
Alors, c'est quoi les curieuses ?
Alors, il y a tout un mur de curieuses, c'est-à-dire ça peut être du lemon grass qui sert pour la cuisine asiatique, ça peut être des condiments, ça peut être des kiwis de Sibérie, c'est un petit kiwi rouge qui est délicieux, ça peut être des courges serpents, qui ont des formes incroyables, qui font 1m20 de haut, qui vont escalader les figuiers, qui descendent comme des lustres dans les figuiers. C'est extraordinaire. Ça pousse de 15 cm par semaine en juillet. Ça a une poussée mais inouïe, incroyable.
Incroyable. Oui. C'est un jardin déco. C'est un jardin gourmand, mais déco aussi.
Alors, il faut que je vous avoue que j'étais quand même décoratrice en événementiel à Paris pendant 20 ans et acheteur à Régis. Donc, j'ai fait beaucoup de grands décors à Paris. Et c'est vrai que l'esthétique m'intéresse beaucoup. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir des plantes un peu rares. Par exemple, j'ai un dahlia qui s'appelle Imperialis, qui a une fleur qui fait à peu près 30 à 40 cm de diamètre, qui fait 3-4 mètres de haut et qui pousse en Amérique du Sud. Et j'ai un titan de Vénus qui est énorme aussi et qui est un arôme géant qui fleurit en 24 heures et qui après et qui est noir, qui est une fleur incroyable. Donc tout ce qui est un petit peu original m'intéresse.
Vous intéresse. Voilà. Et on trouve encore des graines pour toutes ces plantes ou des plants originales?
On fait des échanges avec les gens passionnés. Des gens un peu fous comme moi.
Il y a un réseau.
Oui, un réseau.
Il y a un réseau. Visiblement, vous aimez bien transmettre. Vous recevez beaucoup de groupes.
Énormément de groupes.
Alors, comment ça se passe, les visites?
Alors, d'abord, j'organise beaucoup de visites à la journée du château. En général, on fait une visite historique sur les guerres de Vendée, puisque la Baronnière est un haut lieu des guerres de Vendée, puisque c'est là où a vécu le général de Bonchamp.
C'était le château de sa famille.
Le château de sa famille, donc l'Ancien Régime, qui a brûlé en 1793, en avril 93. Puis après, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, en 1800, achète le château à la marquise de Bonchamp, donc sa femme qui est veuve. Et là, ce potager a été créé à la création du château, pratiquement. Voilà. Le château brûlé n'existe plus, il n'y a plus qu'une chapelle. Et une jolie cour carrée.
Et une jolie cour carrée, quand même, qui
reste. Une jolie cour carrée qui date de l'époque, tout à fait.
Donc, vous avez cette visite-là, cette visite historique, la visite des bâtiments et ensuite la visite, du jardin.
Oui, alors le jardin sert aussi à nourricier parce qu'en fait, dans les visites que nous organisons avec mon mari, souvent, il y a la visite du matin, vers 11h du matin, ils viennent pour les visites historiques. Puis, on organise un déjeuner bio avec tous les produits naturels du jardin. Et les gens adorent croquer le petit concombre original et la petite terrine de courgette et les petites carottes noires, rouges, jaunes, de toutes les couleurs. Et ensuite, on fait une visite du jardin. Et quand j'ai des trop gros groupes de 50 personnes, on divise en deux. Parce que moi, je ne veux pas dépasser 25 personnes à chaque fois.
Oui. Donc, cette année, votre parc n'est pas ouvert pour des groupes, mais il y a pour des visites lors des différentes journées organisées, mais il est ouvert pour des groupes. Comment on fait pour réserver?
Alors, exceptionnellement, cette année, moi, j'ai un mariage de famille, donc je ne peux pas être ouvert pour le 7 juin. Je suis ouvert depuis 15 ans pour les rendez-vous au jardin et j'ai à chaque fois 400 ou 500 personnes. Et je suis toujours ouverte pour les journées du patrimoine, où j'ai quelquefois 1000 personnes, quand on fait un événement. Et là, on explique énormément le jardin et ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire tout ce qui est pour faire un jardin correct, propre, correct, sans produits, et d'entraide de plante en plante. Ça, c'est très important. Et les gens sont passionnés. Et on a des échanges passionnés avec les gens, hein, vraiment. Le groupe, c'est quelque chose de très intéressant.
Écoutez, très bien, il paraît qu'en plus d'aller gratter la terre, c'est excellent pour la santé et que ça éloigne des maladies. Alors certaines plantes éloignent des maladies, mais nous, d'aller mettre les mains dans la terre, ça éloigne des maladies pour nous.
C'est ça, c'est bénéfique pour la santé mentale et physique. Et c'est à l'occasion justement du Neurodon qu'on vous a invité, mais vous n'y participez pas. Mais il y a 7 jardins extraordinaires qui vont ouvrir à la visite le week-end du 8 au 12 mai prochain. Toutes les infos sur le site de la Fondation pour la recherche neurologique. Pour trouver la liste des jardins, notamment, il faut taper frcneurodon.org. Et puis, une autre date à retenir, les rendez-vous au jardin. Cette fois, c'est le 10 juin. Et pour le programme, vous allez sur le site rendez-vous-au-jardin.culture.gouv. Voilà, Anne Duboucheron, merci beaucoup.
Merci.
Et avant de poursuivre avec vous, Marie et Marie-Josée, et votre coup de cœur, on écoute Pomme et ses souvenirs de vacances au jardin, un petit peu nostalgique.
Entre les arbres et la violence, j'ai retrouvé ce qui calme. Des vacances entre les drames et l'insouciance, supporter mes peurs.
Maintenant avec vous Marie et Marie-Jo.
Alors on va continuer sur le thème de l'amour et du divorce, mais on sort de la botanique et on va parler d'un premier roman, Marie-Jo.
Oui, je vais parler d'un premier roman qui est paru en janvier de cette année. Il s'intitule « Une vibration » d'Eddie Pallaro, publié aux éditions Labyrinthe. Alors Eddie Pallaro est auteur et metteur en scène de théâtre. Il dirige une compagnie à Nantes.
Alors, concrètement, qu'est-ce que ça raconte ce roman ?
Un soir, Sonia quitte Jen dans sa polo avec ses trois enfants sans explication. Son mari, Alberto, trouve la maison vide en rentrant du travail. Après une nuit agitée, sans aucune nouvelle d'elle, il se réveille en retard et fonce sous des trombes d'eau pour rejoindre le port où il est grutier.
Et mais encore.
Jen en Italie, cela ne vous dit rien, Marie ?
Si, c'est en 2018 l'endroit où un viaduc autoroutier s'est écroulé, je m'en souviens très bien.
Exactement. Il y a eu 43 morts et de nombreux blessés. Eh bien, Alberto se trouve pile poil sur le pont au moment de la catastrophe. Pendant ce temps, Sonia, son épouse, file vers Nantes. Elle va rejoindre une amie d'enfance avec ses trois enfants dans la voiture de 11 ans, 6 ans et 6 mois. Elle accumule les mésaventures comme tomber en panne, chercher un enfant égaré sur l'aire de repos de l'autoroute, oublier son portable.
Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'elle fuit ?
Alors justement là, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas lâché ce livre. Et ma tension montait, car je voulais savoir la cause de ce départ. Je rappelle qu'elle est partie sans explication. Et tout ce que cela comporte comme complications et la question des enfants. Or, on l'apprend au détour d'une page, en trois mots. Et je peux vous dire que c'est très dur.
Qu'est-ce qui vous a plu, vous, Marie-Jo, dans ce roman ?
Mais parce que je me suis sentie tout de suite concernée. Une femme qui voyage seule avec trois petits, dont un bébé, sur 1300 kilomètres, c'est très courageux et risqué. À cela s'ajoute la difficulté de la langue. Elle parle italien et elle voyage en France. Alors l'auteur m'a mis en apnée. Mais parfois, je respirais mieux, réconfortée par des pépites de chaleur humaine. Et je dois vous dire qu'en toile de fond, j'y ai perçu que les coïncidences malheureuses ou les hasards n'en étaient pas vraiment. Et j'en déduis que, dans ce roman, un hasard n'arrive jamais seul. Mais, surtout, j'ai aimé, car l'auteur a terminé son roman de telle manière que le lecteur en commence un autre avec son imagination. Et ça, c'est inoubliable comme expérience littéraire.
Merci Marie-Jo, ça donne envie. C'est un roman court, 218 pages, et je rappelle le titre, Une vibration par Eddie Pallaro.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Franche Culture continue avec une artiste angevine, Pascale Messina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes peintre et graveuse. Et vous exposez à la galerie Art & Co jusqu'au 22 mai prochain, c'est rue des Arénas, Angers. Alors vous exposez, pour cette exposition, c'est vous qui avez proposé le thème « Vents et marées » et vous exposez avec deux autres artistes. Parlez-nous un petit peu de ces deux autres artistes.
Alors en effet, on m'a demandé d'exposer mon travail de peinture. Et une fois que j'ai eu présenté mon travail à la galeriste, elle m'a dit qu'elle aimerait bien mettre en vis-à-vis deux sculptrices. L'une qui s'appelle Justine Normand, qui fait des sculptures en béton à la main. C'est plus du modelage que de la sculpture et sans cuisson. Donc c'est un avantage, elle travaille en volume, ajourée, ça peut servir de lampe, elle fait aussi de jolis coquillages, et tout ça dans un béton très blanc.
C'est un peu l'éloge de la lenteur, ça sèche tout seul.
Ah, ça sèche tout seul. Alors l'autre sculptrice, Michèle Jarnoux, elle modèle la terre, et elle y ajoute du verre, c'est-à-dire qu'elle travaille la terre en un premier temps, qu'elle fait cuire, et ensuite elle rajoute du verre pilé. Alors elle ne nous a pas dit tous ses secrets, et ça apparaît à la deuxième cuisson comme une espèce de mousse transparente au milieu de sa terre qui, elle, est très noire. Donc c'est intéressant, et on s'est aperçu qu'on avait quand même finalement, entre ces trois artistes, des points communs. Des résonances.
C'est ça. Donc, vents et marées, et c'est un thème qui vous est assez familier, la mer.
Oui, j'ai toujours aimé l'univers aquatique, l'univers marin, aussi bien les marées, les vagues, les tempêtes, tout ce qui bouge, tout ce qui est coloré. Mon univers artistique est très coloré. Et puis, cette fois-ci, j'ai travaillé un petit peu différemment. C'est-à-dire que dans mes petits formats, c'est-à-dire des formats qui font 20 cm par 20 cm, je les ai présentés comme des petites fenêtres ouvertes sur des horizons, en fait. J'ai une peinture abstraite, mais on y reconnaît des horizons. C'est abstrait dans les couleurs. Mais... Bon, ça, c'est assez habituel chez moi de porter le regard très loin, comme si on passait à travers une petite fenêtre. Et par contre, dans les grands formats, ben, j'ai voulu faire l'inverse, et ça, c'est un peu nouveau pour moi. J'ai voulu m'approcher comme si je zoomais sur, au contraire, des détails. Alors, ce sont des grands formats qui font près d'un mètre par un mètre, mais on aura des détails de galets, de turbulence de vagues dans les rochers, de miroitements d'ondes.
Et
ça m'intéressait, de transparence. Ça m'intéressait beaucoup de passer sans arrêt d'un module à l'autre. Et puis j'ai aussi toute une série de monotypes. Alors les monotypes, ce sont des peintures, on va dire, qui sont faites sur métal, alors sur une grande plaque d'acier.
Ça, c'est exposé dans la
oui,
galerie.
Oui, parce que alors on peint sur la plaque et après on pose la feuille dessus et ça imprime. Et là, il y a toujours un peu une surprise quand on retire la feuille. Alors, on peut le faire plusieurs fois en changeant un petit peu le décor. Ça peut être superposé. C'est pas de la gravure, mais c'est ce qu'on appelle un monotype. Et mono veut dire qu'il y en a qu'un. Contrairement à la gravure, on fait plein de tirages. Et ça paraît, c'est encore une autre dimension, on dirait des paysages marins, mais vus d'avion.
Mais ça veut dire
que
vous rajoutez la couleur après ?
Non, je peins sur, j'ajoute la couleur sur le métal.
Sur le métal et ça s'imprime
et
sur
après,
la feuille.
Et après, ça imprime quand je mets la feuille dessus, c'est une feuille de papier épais, papier gravure, et on passe sous presse. Et donc, quand je retire la feuille, il y a des choses qui sont apparues très nettes, d'autres un peu plus floues, et on peut faire un ou deux passages quand même. Mais c'est un monotype, c'est-à-dire il n'y en aura qu'un exemplaire.
Est-ce que ça veut dire que vous pouvez, en fait, être surprise par le résultat de vos
œuvres? Oui, bien sûr, ben, surtout pour les monotypes, oui.
Un peu comme les écrivains qui savent le début et la fin de leur...
Un petit peu. Alors, ça dépend. Quand je fais des tableaux où je suis dans le détail, évidemment, ça va pas me surprendre. Enfin, ce qui va me surprendre, c'est de le réussir sûr de le rater, mais si vous voulez, ce qui m'intéresse, moi, c'est peut-être le cheminement. Au départ, j'ai une idée de couleur, et puis tout d'un coup, surgit une autre idée de couleur. Tiens, ben, je vais voir si ça colle ensemble, si ça se répond, si ça se nuit. Je réussis pas tout ce que je commence, hein, mais souvent, il y a une surprise, oui. Mais ça, c'est aussi la peinture abstraite qui fait qu'on a des surprises.
Oui, alors parlez de nous un petit peu justement, parce qu'on voit bien que vous aimez les couleurs et, oui. et les transparences. Parlez-nous un peu de votre univers, des différents supports que vous utilisez habituellement.
Alors oui, sur le plan technique, je peins beaucoup. Alors j'ai beaucoup peint à l'huile, mais l'huile a un petit défaut, c'est qu'il faut attendre que ce soit sec pour faire d'autres couches.
Et vous êtes impatiente.
Alors je suis un petit peu impatiente. Donc j'aimais les transparences, les glacis m'intéressaient. J'avais l'impression qu'avec l'acrylique, on n'arriverait pas à ça. Et puis bon, je me suis mise à bien travailler l'acrylique en profondeur et je me suis aperçue que ben, on pouvait très bien avoir des transparences. Donc je peins essentiellement sur papier, alors et qu'après je maroufle, c'est-à-dire que je colle sur du bois et quelquefois, une fois collé, une fois sec, je reprends justement en mouillant les papiers, vous voyez, ça va faire des lavés, ça va se mélanger. En fait, toutes les surprises m'intéresse en fait.
Est-ce que votre métier précédent ou votre formation vous a imprimé, enfin, a une impression?
Alors, oui, j'ai une formation artistique. J'ai fait l'école des arts appliqués métiers d'art à Paris, rue Olivier de Serres, et je me suis spécialisée en architecture intérieure. Donc, on peut croire que ça n'a pas de rapport, mais en fait, ça en a, parce que mes horizons sont très structurés. On m'a déjà fait la remarque, je m'en étais même pas aperçue moi-même. Je pense que là, je suis en train de m'éloigner un petit peu de ça, puisque dans Vents et Marées, je me suis autorisée à faire des grossissements, des plans rapprochés, et puis des turbulences, justement, chose que j'avais pas forcément avant. Puis comme j'ai appelé ça vents et marées, bon, marée, c'est quand même facile à dessiner, mais le vent, un petit peu moins.
Donc, un peu de mouvement. Il y a quand même beaucoup de mouvement dans vos
voilà, avant, justement, il fallait que le vent, c'est quand même un peu un challenge de mettre du vent en image. Et donc, à travers, justement, les remous, les monotypes qui sont plus ou moins flous, ça faisait penser au vent et au courant d'air.
Alors, en quoi on retrouve un écho entre vos œuvres et puis les deux artistes que la galeriste a choisi?
Ah ben, déjà, c'est un univers marin.
Oui, à part chez toutes les deux, marin, est-ce que vous avez retrouvé des choses?
Oui, je pense qu'elle l'a choisi un peu à cause de ça. Et puis, dans les coloris, parce que Michel Jarnoux, elle a des bleus, elle a cette espèce de mouvement aussi dans sa, comment dire, dans son verre pilé, cuit, qui bouillonne, qui fait des bulles.
Qui fait de l'écume, c'est
oui,
très étonnant.
Oui, qui fait de l'écume, exactement. Et puis Justine Arnaud, bah, c'est plus le rivage, les coquillages, tout ce qui est en bord de mer, qui est chahuté. Par exemple, ces modules à trous, bah, on peut imaginer que ce sont des vagues qui, au fur et à mesure, percent ces volumes. C'est vrai qu'on s'est trouvé des résonances dans nos travaux respectifs.
Donc c'était bien choisi.
Oui, je pense. Alors ça, j'y suis pour rien. J'ai choisi le titre, mais j'ai pas choisi ces deux artistes que je connaissais pas du tout. Donc on a fait connaissance lors de cette exposition et c'était très intéressant.
Pascal Messina, merci.
Je m'en prie.
Vents et Marées, donc c'est à la galerie Art & Co, rue des Arènes à Angers. Un très beau travail sur l'eau et les objets marins. Et puis votre programme est bien fait pour le week-end, chers auditeurs, entre la galerie d'art Art & Co, où vous retrouverez le travail de Pascal. On retrouve tous les horaires d'ouverture sur l'Instagram de la galerie. Et puis le Neurodon dont on parlait un peu plus tôt, ce week-end, ne ratez pas surtout les somptueux parcs privés ouverts dès demain pour certains, le Jardin de la Cure à Huillers, le Martreuil à Sainte-Christine, et puis je ne vais pas citer tous les autres châteaux, il y en a 7 ou les parcs, tout le programme en tout cas sur le site du Neurodon. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Marion pour la technique aujourd'hui. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas de partager notre podcast car la curiosité se déguste sur les réseaux sans modération.
très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.